de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie, présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Ministre coordonnateur du PMK a présidé la session de la SCC pour discuter des questions socioculturelles de l'ASEAN. Ministre coordonnateur de l'économie a appelé le gouvernement à accroître la valeur ajoutée manufacturière. Ministre des Finances a déclaré que l'Indonésie joue un rôle important dans l'économie halal mondiale. Indonésie et les États-Unis organiseront l'exercice militaire Super Garuda Shield 2023. Ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, appelle le monde à lutter contre l'intolérance religieuse. Équipe nationale U17 a emmené 28 joueurs pour l'entraînement national en Allemagne. Et Sandiaga Uno cherche des vols YIA directs vers l'Australie. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le ministre coordinateur de développement humain de la culture de la République d'Indonésie, Muhajir Effendi, a présidé la 30e réunion de la communauté socioculturelle de l'ASEAN, 30e session de la SCC, pour discuter de diverses questions socioculturelles entre les membres de l'ASEAN. Lors d'une conférence de presse à Jakarta mardi, elle a expliqué que la réunion relative aux piliers socioculturels sera adoptée ultérieurement lors du 43e sommet de l'ASEAN qui se tiendra à Jakarta en septembre. La réunion a réuni un certain nombre de personnalités, dont le secrétaire général de l'ASEAN, Kaw Kim Hoon, ainsi qu'un certain nombre de ministres d'Asie du Sud-Est. À cette occasion, le personnel spécial du ministre coordonnateur du développement humain et de la culture pour la coopération internationale, Joko Kusnanto Anggoro, a déclaré que les déclarations et déclarations liées aux questions socioculturelles de l'ASEAN cette année étaient très productives. Le ministre coordonnateur de l'économie de la République d'Indonésie, Erlangga Hartanto, a déclaré que le gouvernement continue de s'efforcer d'augmenter la valeur ajoutée du secteur manufacturier. Lors de l'ouverture du sommet industriel indonésien 2023 à l'UNS Tower Solo dans le centre de Java, Mardi, il a déclaré que la valeur ajoutée du secteur commercial était due à une fabrication élevée. Son parti a donc toujours encouragé ce secteur manufacturier à avoir de la valeur ajoutée. Il a déclaré qu'en général, l'état de l'indice du directeur des achats PMI en Indonésie était supérieur à 50. Même le mois dernier, l'indice PMI indonésien a atteint 53,3. Cette valeur est l'une des plus élevées de la région asiatique. L'indice des gestionnaires d'achat de l'Indonésie est supérieur à celui des pays développés tels que l'Amérique, le Japon et d'autres. Erlangga Hartanto a déclaré que l'augmentation était l'une des contributions du secteur industriel qui était proche de 18%. La ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que l'Indonésie joue un rôle important dans l'écosystème économique halal mondial. En effet, l'importante population musulmane favorise le développement de la production et du marché des produits halal en Indonésie. Sri Mulyani, lors de la 7e conférence annuelle sur la finance islamique AIFC, qui s'est déroulée en ligne à Jakarta, a expliqué mardi que l'économie halal indonésienne devrait augmenter le produit intérieur brut PIB de 5,1 milliards de dollars américains par an. La demande croissante des produits et services halal ainsi que la position stratégique de l'Indonésie sur le marché mondial ont fourni un potentiel de croissance rapide et un large espace de développement pour l'économie halal indonésienne. L'Indonésie, les États-Unis et 5 autres pays organiseront l'exercice militaire Super Garuda Shield 2023 du 31 août au 13 septembre dans plusieurs endroits d'Indonésie. L'ambassade américaine à Jakarta a déclaré mardi dans un communiqué que des militaires des États-Unis, d'Indonésie, du Japon, d'Australie, de Singapour, de Grande-Bretagne et de France participeraient à l'exercice conjoint. L'exercice conjoint est une forme de solidarité multilatérale pour maintenir une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Des représentants militaires du Brunei, du Brésil, du Canada, de l'Allemagne, de l'Inde, de la Malaisie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la Corée du Sud et du Timor-Leste seront également présents en tant qu'observateurs lors de l'exercice. Citant un rapport d'Antara, le commandant de l'armée américaine dans le Pacifique, le général Charles Flynn, a déclaré dans un communiqué que Super Garuda Shield 2023 poursuivrait l'extraordinaire succès de l'année dernière. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé les pays du monde à lutter ensemble contre l'intolérance religieuse. En réponse à la récente brûlure généralisée d'Al-Coran en Europe, c'est ce qu'a exprimé la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans une déclaration qu'elle a prononcée mardi lors du dialogue plurilatéral de Jakarta. La ministre Retno a fait référence à la résolution 16 sur 18 adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies il y a 12 ans, qui est devenue une ligne directrice pour cultiver la tolérance religieuse, la paix et le respect afin de promouvoir la tolérance religieuse. Elle a souligné la nécessité pour toutes les parties de maintenir un équilibre entre la liberté d'expression et l'absence de discrimination. En outre, elle a souligné la nécessité d'établir un cadre juridique clair contre la discrimination fondée sur la religion. L'équipe nationale U17 réunira 28 joueurs pour suivre un camp d'entraînement en Allemagne dans le cadre de la préparation de l'équipe avant de participer à la Coupe du Monde U17 en novembre. L'entraîneur de l'équipe nationale U17, Bima Sakti, lors d'une conférence de presse avant le match d'essai contre la Corée du Sud à Jakarta mardi, a déclaré à propos des 18 joueurs recrutés. PSSI avait encore deux places à remplir pour les joueurs de la diaspora s'il y avait des joueurs de la diaspora aptes à remplir l'équipe besoin. Concernant les acteurs de la diaspora, Bima a déclaré que jusqu'à présent, seul le nom de Weber Halim Jardim avait été inclus dans son projet. Surtout parce que Weber a une mère originaire d'Indonésie, ce qui facilite l'obtention d'un passeport indonésien pour le joueur. Bima a également souligné qu'en plus d'adopter un style de jeu typiquement indonésien, à savoir la Philanesia, son équipe a pleinement compris que la défense est l'un des éléments les plus importants pour naviguer dans le camp d'entraînement et plus tard pour apparaître dans le mondial U17. Le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, cherche à ouvrir des vols internationaux directs depuis l'aéroport international de Yogyakarta, YIA, vers l'Australie afin d'augmenter les arrivées de touristes en provenance de ce pays. C'est ce qu'a transmis le ministre Sandiaga aux médias Yogyakarta mardi. Sur la base de ce qui a été transmis par le vice-gouverneur du Yogyakarta, Paku Alam IX, lors de la 4e réunion de travail national d'ACITA à Yogyakarta. Selon lui, les vols de YIA devraient être effectués directement vers l'aéroport de Perth, Melbourne et Sydney en Australie. En plus de l'Australie, même paragraphe a déclaré que des vols internationaux à YIA continueraient également d'être ajoutés, y compris vers le Moyen-Orient. Selon lui, l'Association des agences de voyages indonésiennes, ACITA, et un certain nombre de compagnies aériennes soutiendront ce projet sur la base des communications avec Qatar Airways, Emirates et Turkish Airlines. Il a déclaré que toutes ont exprimé leur intérêt à soutenir des vols directs vers YIA. Selon Sandiaga, l'augmentation des vols directs devrait accroître l'utilisation ou la facilité d'utilisation des avions à YIA, qui est jusqu'à présent inférieure à 60%. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Cédric, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Renforcer la culture de tolérance pour un monde plus pacifique ». Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Religion et le cabinet du président indonésien organisent le dialogue plurilatéral de Jakarta 2023. L'événement qui a duré deux jours a été officiellement ouvert par le ministre coordinateur du développement humain et de la culture de la République d'Indonésie, Muhajir Effendi, mardi 29 août 2023 à Jakarta. Le thème abordé était le renforcement de la culture de tolérance en intégrant la résolution 16/18 de l'ONU. Mwadi Afendi a déclaré dans son discours qu'une culture de tolérance est nécessaire pour maintenir la diversité de la société et que tous les pays doivent travailler ensemble de manière constructive pour construire une culture de tolérance. Pendant ce temps, le ministre de la Religion, Yakut Khalil Kumas, a souligné que l'Indonésie est l'un des pays avec une expérience de tolérance très longue et intense. Les traditions et croyances nationales indonésiennes encouragent ses citoyens à comprendre, illustrer et traduire les différences comme faits pouvant être compris et adaptés aux interactions sociales dans la société. Pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé les pays du monde à lutter ensemble contre l'intolérance religieuse. Cet appel était une réponse à l'autodafé généralisé du Coran en Europe récemment. Il a déclaré qu'il était important que la communauté mondiale s'attaque à cette tendance inquiétante avant qu'elle ne dégénère en quelque chose de plus grave. Selon elle, cette tendance pourrait déclencher la haine et la violence et mettre en danger la paix et la stabilité mondiale. Retno Marsudi a également encouragé les efforts innovants pour lutter contre l'intolérance religieuse en utilisant la technologie comme moyen de favoriser la compréhension et le respect mutuel, de diffuser la valeur de la tolérance et d'intégrer les engagements envers la résolution 16/18 de l'ONU. Bien entendu, les messages véhiculés lors du dialogue plurilatéral de Jakarta 2023 ne relèvent pas uniquement de la responsabilité des représentants des 64 ambassades de pays amis et de tous les participants. Il est du devoir et de l'obligation de tous les citoyens du monde de renforcer une culture de tolérance. Chacun peut contribuer à prévenir les actes d'intolérance. Au moins, actuellement, plus de 5 milliards de personnes dans le monde sont connectées à Internet. Il est indéniable qu'Internet utilisé à mauvais escient est l'un des déclencheurs de l'intolérance. L'utilisation judicieuse des médias sociaux connectés au réseau Internet pourra certainement favoriser une culture de tolérance au sein de la communauté mondiale. S'habituer à sélectionner et filtrer du contenu ou de messages via les réseaux sociaux doit être une priorité. Il est tout aussi important de comprendre que la liberté d'expression ne signifie pas être libre de dire n'importe quoi. La liberté d'expression doit être contrebalancée par la responsabilité et garantir que ce qui est véhiculé ne viole pas les droits individuels ou collectifs. C'est le temps, c'était le commentaire pour ce soir. La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Bonsoir, c'est Zorita, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 30 août 1999, le référendum au Timor-Oriental. Depuis 1976, le territoire du Timor-Oriental est devenu la 27e province d'Indonésie après avoir été colonisé par les Portugais au début du XVIe siècle. Après la démission du deuxième président indonésien, Suharto, en 1998, les Timorais de l'Est ont demandé l'indépendance de l'Indonésie. Les Nations Unies, ONU, ont alors fait une résolution et encouragé à l'Indonésie à faire le référendum comme mandat de l'ONU avec le soutien des pays occidentaux. Enfin, le 30 août 1999, les Timorais de l'Est ont organisé un référendum sous le contrôle de l'ONU. Le 4 septembre 1999, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a annoncé les résultats du référendum au Timor-Oriental où 79% de la population a choisi de quitter l'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 30 août, commémoration de la Journée internationale du requin baleine. La Journée internationale du requin baleine est célébrée chaque année le 30 août et est célébrée depuis 2008. La journée vise à sensibiliser au requin baleine, en espèce en voie de disparition, l'importance de ces animaux dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème marin. Habituellement, le requin baleine aime nager dans les eaux peu profondes, mais on peut aussi les trouver en eau profonde. C'est ce qui rend les requins baleines faciles à attraper. En Indonésie, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a établi le statut de protection totale du requin baleine Rincodon typhus. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée internationale contre les disparitions forcées. Depuis 2011, le 30 août a été désigné Journée internationale contre les disparitions forcées par les Nations Unies. Cette commémoration a été créée pour rappeler à la communauté mondiale qu'il y a eu des crimes de disparitions forcées dans divers pays. De plus, cette commémoration vise à attirer l'attention de la communauté mondiale pour continuer à s'interroger sur le sort de ceux qui ont été victimes de disparitions forcées. C'est le temps, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, par rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est « Les entrepreneurs américains apprécient l'Indonésie pour son climat commercial propice ». Les hommes d'affaires américains apprécient les politiques d'investissement indonésiennes qui ont créé un climat commercial plus propice. C'est ce qu'a déclaré Jonathan Jackson, membre du Congrès des États-Unis, lors d'une réunion avec le ministre indonésien de coordination de l'économie, Erlangga Hartarto, à Jakarta, lundi 28 août. Au cours de la réunion, Jackson et trois autres délégations du Congrès américain ont discuté d'un certain nombre d'agendas stratégiques, notamment le domaine de l'investissement énergétique et la coopération dans le cadre économique Indo-Pacifique, IPEF. En réponse aux propos de Jackson, le ministre coordonnateur de Erlangga Hartarto a déclaré que le gouvernement indonésien avait poussé aux réformes structurelles par le biais de la loi sur la création d'emplois, qui avait créé un climat propice à l'investissement tout en encourageant un développement équitable. Erlangga Hartarto a expliqué que le gouvernement indonésien encourage également activement les investissements étrangers à entrer en Indonésie afin d'atteindre un objectif d'investissement de 1 400 billions de roupies en 2023. Elle a ajouté que l'Indonésie est très ouverte à la coopération en matière d'investissement dans divers domaines économiques. Jusqu'à présent, le secteur privé américain a investi massivement en Indonésie dans le secteur minier, des machines et pharmaceutiques. Pendant ce temps, lors d'une discussion sur le cadre économique Indo-Pacifique, un autre membre du Congrès américain, Yong Kim, a souligné le développement et les attentes de l'Indonésie en matière de coopération économique régionale. En réponse à cela, le ministre coordonnateur Erlangga a déclaré que l'Indonésie est activement impliquée dans les négociations sur la coopération économique dans le cadre économique Indo-Pacifique. Selon Erlangga Hartarto, le cadre économique Indo-Pacifique peut servir comme pont pour la collaboration entre l'Indonésie et les États-Unis, en particulier dans le secteur des investissements liés aux infrastructures et à la fabrication d'énergie propre. Dans le cadre économique Indo-Pacifique, le sujet des minéraux critiques ou importants est également abordé. Le gouvernement indonésien espère bénéficier du crédit d'impôt sur le véhicule propre en vertu de la loi sur la réduction d'inflation, IRA, des États-Unis. Le crédit d'impôt est accordé aux pays partenaires ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis. En tant que partenaire de l'IPEF, l'Indonésie espère remplir les exigences de commodités dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation. Erlangga Hartarto espère qu'en faisant partie de l'écosystème américain de fabrication de véhicules électriques, il pourra accélérer la réalisation de l'objectif de zéro émission nette de l'Indonésie. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, la ville de Bogor est connue comme la ville de la pluie, car elle bénéficie de précipitations assez élevées. La ville de Bogor se compose de 6 sous-districts qui sont eux-mêmes divisés en 68 quartiers. Pendant la période coloniale néerlandaise, la ville de Bogor était connue sous le nom de Buitenzorg, ce qui signifie sans anxiété ou paix et sécurité. Cette petite ville qui soutient la capitale Jakarta possède également divers artefacts historiques, dont l'inscription Batu Tulis. L'inscription Batu Tulis est située sur Jalan Batu Tulis, village de Batu Tulis, district de Bogor Sud, en ville de Bogor. Dans ce tout bel environnement, le complexe de l'inscription Batu Tulis a une superficie de 17 par 15 mètres. L'inscription Batu Tulis est considérée comme située sur le site de la capitale Pajajaran et se trouve toujours à son emplacement d'origine et est le nom du village où se trouve ce site. La pierre d'inscription et d'autres objets du royaume de la Sonde sont contenus dans ce complexe. Sur cette pierre sont gravées des phrases en vieux sundanais avec l'écriture Kawi. Cette inscription date de 1455 Saka vers 1533 après Jésus-Christ. Cette inscription contient un avertissement aux habitants de la région de Bogor de toujours entretenir leur environnement afin qu'il reste beau et sûr en tant que lieu de vie. Cet avertissement vient de Sri Baduga Maharaja Ratu Aji à Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata qui dirigeait le royaume de la Sonde et construisit la ville de Bogor pendant son règne en 1533 après Jésus-Christ. Les vacances et les études sont un choix judicieux pour occuper votre week-end. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir! On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Beristirahat di Serambi Masjid. Beristirahat di Serambi Masjid. En français, se reposer sous le porche de la mosquée. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Beristirahatlah di Serambi Masjid. Beristirahatlah di Serambi Masjid. En français, se reposer sous le porche de la mosquée. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie des vlogs de Chris. Ils se sont reposés et ont admiré l'architecture de la grande mosquée de Sumatra occidentale. Bonne écoute.
Unik sekali bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini.
Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid?
Boleh, tapi fotokan saya dulu ya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Intitulé Beristirahat di Serambi Masjid. Beristirahat di Serambi Masjid. Se reposer sous le porche de la mosquée. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Et si on se reposait sous le porche de la mosquée? Bagaimana? Bagaimana? Et ou comment? Kalau. Kalau si kita kita on. Beristirahat. Beristirahat, se reposer. Serambi. Serambi. Porche. Masjid. Masjid, mosquée. Perlu, perlu, nécessaire. Unik sekali, très unique. Bangunan, bangunan, bâtiment. Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat, grande mosquée de Sumatra occidentale. Boleh, boleh, peut-on. Fotokan, fotokan, prendre la photo. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu l'expression Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? En français, Et si on se reposait sous le porche de la mosquée? Dans cet énoncé, il y a le verbe beristirahat. Beristirahat, se reposer. C'est-à-dire faire des activités de repos. Pour exprimer l'activité consistant à faire quelque chose, vous pouvez utiliser des verbes similaires. A beristirahat. Beristirahat, se reposer. Tel que berlari. Berlari, courir. Et berjalan. Berjalan, marcher. Chers amis, allez, écoutons d'autres exemples d'utilisation de verbes significatifs pour réaliser des activités. Berlari. Berlari, courir. Murid berlari menuju kelas. Murid berlari menuju kelas. Les étudiants courent en classe. Berbisnis. Berbisnis, faire des affaires. Pengusaha itu mulai berbisnis sejak masih muda. Pengusaha itu mulai berbisnis sejak masih muda. L'entrepreneur a commencé à faire des affaires quand il était jeune. Chers amis, la grande mosquée de Sumatra occidentale dans la ville de Padang a reçu un prix international pour l'architecture de la mosquée. La grande mosquée de Sumatra occidentale n'a pas de dôme, mais possède un toit typique de la maison Gadang de Minangkabau. L'architecture de la mosquée symbolise un mélange de valeurs traditionnelles et de la charia. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Unik sekali bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini.
Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid?
Boleh, tapi fotokan saya dulu ya.
Bonjour Jeta, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Nusa Tenggara Oriental intitulée « Gemu Famire ». « Gemu Famire » a été composée par Nyong Franco en 2011. Cette chanson a été composée à l'origine comme une chanson de bienvenue pour les invités venant à Maumere, Nusa Tenggara Oriental. En plus d'être une chanson, « Gemu Famire » est également connue comme une danse, telle que la danse Poco Poco. Nyong Franco a intégré des éléments de l'instrument musical gong pour faire ressortir la sagesse culturelle locale. Les paroles de la chanson Gemu Famire mentionnent Maumere comme une ville pleine de chansons. Le refrain de la chanson Gemu Famire invite également les auditeurs à danser et à tourner sur eux-mêmes. Pour chers auditeurs, voici une chanson intitulée Gemu Famire, chantée par Nyong Franco. Bonne écoute.
Roposai.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.